Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Natacha Valla, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes trop haut, Natacha. On va il y a une manette de sous le tabouret.
Pas pour manipuler.
Si, faut pas hésiter. D'accord. Il y a un truc là à droite. Doyenne de l'école de management et de l'innovation de Sciences Po et présidente du Conseil national de la productivité. On va dire un mot de ce conseil dans un instant. Et vous avez coécrit Le futur de la monnaie chez Odile Jacob. Stéphane Carcillo, bonjour.
Bonjour.
Responsable de la division revenu travail de l'OCDE, professeur associé à Sciences Po et membre du cercle des économistes. Gaël Sliman, bonjour.
Bonjour.
Président de Doxa. Vous me direz ce que c'est qu'un riche. Je posais la question à Gaël avant l'émission, si à la place de riche, on mettait qu'est-ce qu'être fortuné. On n'aurait probablement pas les mêmes résultats. Moi, j'ai un peu dans l'idée que celui qui est vraiment riche, c'est celui qui est fortuné. Mais enfin, c'est du ressenti. Oui, le Conseil national de la productivité, car vous en êtes la présidente, et vous avez remis des travaux récemment. Comme vous êtes là, ce serait pas mal de faire une petite synthèse de ce que disait ce rapport, car c'est un peu une énigme des économistes. On a peu de gains de productivité, voire pas de gains de productivité. On ne sait pas toujours comment l'expliquer. Et en théorie, l'absence de gains de productivité supposerait qu'il n'y ait pas de gains salariaux. Et alors, quelles étaient les conclusions du rapport que vous avez commis ?
Alors, effectivement, on a travaillé sur la productivité, sur la compétitivité, puisque ces conseils sont nés dans un cercle européen il y a quelques années, où on considérait que c'était utile d'avoir un groupe d'économistes dans chaque pays membre pour évaluer les positions relatives des pays, tout simplement. Et en termes de productivité, on sait que depuis 15-20 ans, il y a une tendance à la baisse, une tendance baissière du taux de croissance de la productivité, qui est difficilement explicable parce qu'on est dans des circonstances technologiques qui devraient, en principe, nous permettre de l'améliorer. Donc, ce qu'on a observé, le constat qu'on a fait dans le rapport, c'est qu'effectivement, dans cette baisse tendancielle, on a eu un gros choc qui a été la pandémie. La pandémie a permis de remettre en cause de grands éléments, des éléments fondamentaux de l'organisation du travail, l'organisation de la production, et qu'aujourd'hui, parmi ces grandes questions, certaines sont encore ouvertes, notamment celle de l'organisation des entreprises, qui pourrait, si elle s'effectue selon une trajectoire entre guillemets optimale, qui pourrait nous permettre de débloquer ces gains de productivité. Le télétravail aussi a pu permettre d'effectuer des gains de productivité pour des entre guillemets mauvaises raisons, puisque les entreprises ont pu économiser pas mal de dépenses au niveau de l'utilisation des bureaux, de l'immobilier d'entreprise. Mais voilà, encore une fois, il y a des pistes, les pistes fondamentales sont encore ouvertes. Et puis, un deuxième message qu'on a dans le rapport, c'est lié aux facteurs qu'on évoque généralement pour expliquer les différentiels de productivité. Et on a regardé des choses peu regardées par les macroéconomistes, les soft skills, les facteurs humains.
Ah oui.
Tout ce qui n'est pas mesuré par les compétences dures, ce qu'on apprend à l'école. D'ailleurs, les soft skills en Europe et en France, c'est assez dénigré. Finalement, à l'école, on les valorise pas tellement. Et on s'est rendu compte, en prenant des données d'enquête micro, donc au niveau des entreprises, que les entreprises qui étaient à la frontière de la croissance de productivité, donc celles dont la productivité croissait le plus, pour ces entreprises-là, on pouvait expliquer leur meilleure performance pour 40% par ces facteurs, ces soft skills. Donc, à creuser. Oui. Parmi les soft skills, on regarde les compétences des managers, la complémentarité des profils. On regarde aussi la diversité, notamment la diversité de genre. Donc, ces choses-là sont encore un peu intangibles. On n'a pas tellement de données pour faire des travaux plus généralisés. Mais on essaye d'ouvrir la voie. On essaye d'ouvrir la voie dans cet opus. Et il y aura un autre rapport sur l'automne.
L'autre rapport, probablement, que vous élargirez la notion de soft skills, peut-être aux critères ESG, parce que tous ces critères extra-financiers, c'est très difficile aujourd'hui de les auditer, de les certifier, mais on pas. Les pessimistes vous diront que c'est le pire des boulets qu'on a accroché à la patte des entreprises, et les optimistes vous diront que de toute façon on ne peut pas faire autrement et qu'il y a probablement des gains à en tirer. Mais c'est un vrai sujet, ça. Pourquoi est-ce que la révolution numérique n'entraîne pas des gains de productivité importants ? C'est l'un des éléments constitutifs de la théorie de la stagnation séculaire qui a vu le jour aux États-Unis. La SNCF, Bon, une hausse de salaire médiane, donc 3,1% médian, mais certains c'est un peu plus pour les plus bas salaires, un peu moins pour les cadres, je crois que les cadres sont dans les 2,7, un truc comme ça. L'objectif c'est de mettre fin à cette grève qui est arrivée comme par hasard au moment des départs en vacances. Est-ce que vous la voyez, la boucle prix-salaire ? J'élargis, Stéphane Carcillo, la boucle prix-salaire que tout le monde redoute, où on se dit que là, on serait vraiment dans la vraie définition de l'inflation.
C'est assez naturel qu'on voit ces effets, effectivement, maintenant, de rattrapage des salaires. C'est même, je pense, à un moment donné, souhaitable, parce que sinon, il y a des vraies pertes de pouvoir d'achat. Vu qu'on est sur une inflation qui, en France, s'approche de 6% et en Europe, est plus élevée. Donc, à ces niveaux d'inflation, ça va très, très vite, la perte de pouvoir d'achat. Et donc, il est tout à fait logique qu'il y ait un partage, quelque part, entre l'entreprise et les salariés de ce coût. Parce qu'une hausse de 3% dans une inflation à 6, c'est quand même une perte de pouvoir d'achat. Et donc, quelque part, on a partagé le coût avec l'entreprise. Il y a un choc. Et donc, on partage les effets de ce choc. Maintenant, est-ce que ça va enclencher une boucle, une spirale ?
Les salaires montent, les prix montent, les salaires montent, les prix montent, voilà. Les salaires montent, les prix montent.
Objectivement, à ce stade, c'est extrêmement difficile de le dire et d'identifier si on est en train d'entrer dans ce type de dispositif. Ce qu'on sait de l'expérience des années d'inflation forte et en accélération forte et surtout durable, c'est que la spirale se crée à partir du moment où on n'essaie pas de rattraper le pouvoir d'achat, mais on anticipe l'inflation future.
Ah, c'est ça.
Donc, c'est une grosse différence, c'est qu'en fait, on fait des demandes de revalorisation sur les projections d'inflation pour l'année prochaine,
c'est la clé.
Non plus sur ce qui s'est passé l'année dernière. Et donc ça, effectivement, quand on voit ce genre de demandes, quand on regarde, à ce moment-là, il faut regarder vraiment précisément quelles sont les demandes, sur quoi on s'appuie, etc. Là, on change un peu de monde, puisqu'on est en train...
On pourrait dire qu'IG Metall, par exemple, voilà, a agi un peu comme ça, en demandant 8,2% en Allemagne.
Ah, voilà. Donc, effectivement, on est... quoi qu'en Allemagne, je pense qu'on n'est pas loin de cette inflation-là.
Ah, mais on y est.
Mais je crois que dès lors qu'on commence à se projeter et à demander des revalorisations sur la base du futur, on fait avancer la roue vers l'avant.
Je comprends. Je comprends très bien.
Et donc après, effectivement, on est dans un phénomène de spirale, alors que lorsqu'on essaie simplement de rattraper le passé, et en plus on le rattrape partiellement, c'est pas quelque chose qui est de nature à vraiment enclencher une dynamique assez rapide de spirale.
La fameuse anticipation, c'est la clé. Oui, Gaël Sliman, par rapport à ça.
Je suis vraiment très inquiet parce que...
Mettez le micro plus près, Gaël, il est beaucoup trop loin.
Je suis vraiment très inquiet parce que sur les données d'opinion dont on dispose, on a une angoisse au niveau des Européens qui est spectaculaire. Vous évoquiez l'Allemagne, c'est pas une situation évidemment française. On a réalisé avec la FG2A un grand baromètre sur l'état de la consommation et des intentions de consommation des Européens. Et on a un benchmark, une comparaison France-Europe, et c'est juste catastrophique. Vous avez 9 personnes sur 10 qui se déclarent inquiètes de la situation de l'inflation et de son évolution, mais vous avez surtout une très large majorité de Français et d'Européens qui nous disent, dans notre pouvoir d'achat au quotidien, on est déjà impacté par l'inflation, on le ressent, et on a adapté nos comportements de consommation. On a vu récemment des données de l'INSEE sur la consommation qui n'était pas bonne. Dans cette enquête qui a été publiée il y a de ça 3 semaines, on avait déjà des pans entiers de Français et d'Européens qui nous disaient « Eh ben oui, j'ai serré la ceinture, j'ai fermé les robinets » sur tout un tas de comportements de consommation quotidiens et notamment aussi sur les vacances à venir. Donc cette situation-là qu'on retrouve dans notre baromètre éco ce mois-ci, avec un effondrement de l'indice du moral économique des Français, elle est préoccupante parce que je rappelle que le pouvoir d'achat, c'était déjà la préoccupation numéro un des Français, à un moment où, d'après les données stat, en moyenne ou en médiane, il progressait le pouvoir d'achat.
C'est vrai.
Là, il baisse, les gens anticipent une baisse encore plus forte, et très probablement que ça va être un sujet majeur. Donc je ne suis pas expert sur les boucles d'inflation, mais on risque d'être confronté à des situations complexes, sachant que dans les entreprises pour qui on fait des études de climat social, il y a une montée spectaculaire des demandes de rattrapage salariaux. Donc on ne sait pas comment ils feront face.
Effectivement, comme disait Stéphane, si on est sur du rattrapage de quelque chose observé, on n'est pas vraiment dans cette boucle qui s'auto-alimente. Un autre élément qui m'a frappé là sur les changements de comportement, c'est la Fédération nationale des agents immobiliers qui a sorti une enquête. 9 sondés sur C'était 9% des sondés indiquent qu'ils vont annuler leur projet d'achat immobilier.
Oui, bah sur l'immobilier, on a aussi des tas de données au niveau européen qui montrent effectivement que il y a des altérations vraiment spectaculaires. Hein. Ça modifie les prévisions concernant les futurs projets immobiliers de 56% des personnes concernées. Ah, modifier, ça ne veut pas dire qu'ils les annulent.
Oui, oui, bien sûr.
Ça veut dire qu'ils changent leur plan.
On a la particularité en France de ne pas avoir l'inflation européenne, mais nettement moins, grâce ou à cause du bouclier tarifaire et de l'ensemble des mesures pouvoir d'achat qui sont actuellement décidées au niveau politique. Natacha Valla.
Ça montre qu'il faut refaire la pédagogie de l'inflation.
C'est-à-dire
pendant 15 ans, on a dit on est dans un monde qui n'a plus d'inflation, on craint la déflation, et c'était vrai.
Oui.
C'est-à-dire qu'un état de fait, les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, quasiment, n'ont jamais vécu avec un souvenir d'inflation ou avec quelque chose qui ressemblait à de l'inflation. On parle de taux d'inflation modéré, on ne parle même pas de scénario d'hyperinflation. Ouais. Donc tout ça arrive comme une nouveauté, et cette nouveauté-là, elle était par définition pas intégrée dans les décisions, dans les comportements. Donc ça, c'est un premier point. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure sur les phénomènes d'indexation, enfin le rattrapage salarial. Les rattrapages salariaux auxquels on assiste aujourd'hui en France, effectivement, ça donne quand même lieu à des baisses de salaire en termes réels.
Donc
on est encore dans un rattrapage partiel. Il faut voir aussi que la question des anticipations d'inflation, et ça a été très justement souligné, elle est clé. C'est-à-dire que si on laisse partir les anticipations d'inflation, ça va avoir pour effet de répercussion non seulement des effets de marché, puisque c'est sur les marchés que ces anticipations d'inflation ont un prix et s'expriment, mais aussi sur les comportements. Et c'est la raison pour laquelle, si vous regardez les prévisions d'inflation de la BCE, les dernières...
Elles sont très prudentes.
À horizon, bout d'horizon, c'est à 2,1%.
Oui, j'ai vu, c'est 2,1% en 2024 ou 23, je ne sais pas.
24, c'est ça. Et donc
c'est une manière d'ancrer les anticipations à des niveaux acceptables, de tenter de le faire. C'est évident que si la BCE disait « je ne sais pas » et on... Parce que là, la Banque de France nous a dit 7% en septembre, en France. Écoutez, on suit ça évidemment comme le lait sur le feu ici, vous l'imaginez. On verra quand même ce que ça peut représenter pour l'État en fin d'émission si on a le temps. Vivons-nous la grande démission, Stéphane Carcillo? PwC sort une étude indiquant qu'un Français sur 6 veut quitter son job cette année. Et là, on se dit « waouh, c'est quand même un phénomène ». Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on ait 7,3% de chômage avec autant d'entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Il y a un moment où le truc m'échappe. Ça dépasse un petit peu l'entendement. Mais là, on a un phénomène qui n'est peut-être pas le phénomène américain, mais qui rappelle un petit peu ce qui se passe. Les gens ne veulent plus bosser.
Alors, il y a des éléments structurels et puis des éléments conjoncturels dans ce phénomène. La grande démission, ça sous-entend qu'on est dans un phénomène assez exceptionnel par rapport à...
Il l'est d'ailleurs, aux États-Unis.
Alors, aux États-Unis, justement, le débat est un peu plus compliqué que ça. Il y a eu effectivement ce grand débat autour des démissions. Mais maintenant, quand on regarde de près les chiffres aux États-Unis, on se rend compte que... Compte tenu du rebond économique très très fort à la suite de la crise du Covid, le regain de démission n'était pas exceptionnel. En période de boom économique, les gens...
Comme on a des déplacements qui rapportent, on n'a plus besoin d'avoir un salaire forcément tous les mois. C'est un peu ça l'idée.
Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'autour de soi, on voit plein d'opportunités d'emploi s'ouvrir.
Oui, c'est hyper flexible là-bas, bien sûr.
Et donc, en fait, naturellement, on se dit, maintenant, j'ai envie de changer. Surtout quand on a eu 2 ans pour réfléchir à son job et se dire qu'on en avait marre. Et surtout, il y a ce phénomène-là, conjoncturel. Il y a effectivement le rebond de l'économie. Il y a le fait que, pendant 2 ans, toutes ces mobilités ont été gelées. Puisque les marchés du travail, c'est un phénomène assez exceptionnel aussi, pour le coup, par rapport aux autres périodes de récession. Le marché n'a jamais été autant gelé du travail en termes de réallocation que pendant cette crise du Covid, compte tenu de la spécificité des mesures qui ont été prises. Du chômage partiel dans certains pays, notamment les pays européens.
Notamment chez nous, oui.
Et donc, en fait, du coup, les gens, mais même aux États-Unis, parce que les gens qui étaient au chômage aux États-Unis temporaire ne bougeaient pas non plus parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Donc, c'est un équivalent
par rapport à... Les Américains, on fait de l'hélicoptère monnaie à ce moment-là. Donc.
Voilà. Bon, donc, on a d'un côté des gens qui, pendant 2 ans, et ça s'applique tout à fait aussi au cas français, n'ont pas bougé. Et un effondrement des démissions. Et ensuite, tous ces plans naturels de carrière qui se sont reportés en sortie de crise où là, les opportunités rebondissent. Et donc, d'un seul coup, on voit les gens qui, naturellement, veulent changer de job.
D'accord.
Alors ça, c'est vraiment l'effet de la conjoncture qui fait dire que, oui, on a un rebond, il est incontestable, mais au vu des circonstances économiques, de la conjoncture et de ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, ça n'est pas exceptionnel. Maintenant, il y a peut-être quelques éléments qui sont un petit peu plus structurels, qui sont que dans certains métiers, il y a des gens qui ne veulent plus y aller. Peut-être parce qu'ils ont eu le temps de réfléchir pendant la crise, peut-être parce qu'ils ont fait une pause dans leur carrière. Donc il y a pas mal de témoignages dans ce sens-là aux États-Unis, en France, notamment dans les métiers de l'hôtellerie, de la restauration.
C'est là où ça a été époustouflant dans les métiers de l'hôtellerie.
Voilà,
il y a eu une démission dans les métiers.
Parce que ce sont des métiers qui sont difficiles en matière d'horaire. Qui sont généralement pas rémunérés à hauteur de la difficulté effectivement et des contraintes qu'ils imposent. Et donc il y a des gens qui du coup pendant la crise du Covid ont complètement arrêté ces activités puisqu'elles étaient stoppées et se sont dit bah, écoutez je change je veux changer de vie parce que finalement je me suis rendu compte pendant ces deux ans que ma vie était beaucoup plus agréable quand j'avais pas ces horaires décalés et ces contraintes. Et donc est-ce que c'est quelque chose de durable ou pas?
Certains secteurs sans doute.
Ouais. On voit des.
Parce que là, il y a quand même eu une hausse des rémunérations de branches,
oui.
À deux chiffres.
Voilà.
Et ça n'a pas entraîné une vague de recrutement.
Voilà. Et donc ça suggère qu'effectivement.
Les pancartes sont pleines de restos, voilà. On cherche.
Donc ça suggère que les préférences des salariés dans ces secteurs ont évolué, peut-être. Et du coup, ça pourrait être un peu plus structurel pour ces métiers-là.
Gail Sliman, par rapport à ce phénomène, c'est parce que c'est pas la grande démission à l'américaine chez nous, mais il y a quand même un phénomène que j'avais jamais vu. Il y a un moment où on a du mal à comprendre que 3,5 millions de chômeurs d'un côté n'arrivent pas à matcher avec des postes en face.
Alors, il y a deux sujets. Je vais pas revenir sur ce que vous venez de dire, évidemment très juste, sur les logiques de couvercle, en quelque sorte. On met un couvercle, quand le couvercle se soulève, il y a plus de départs. Il y a cette logique-là. Mais il y a aussi une logique sur le rapport au travail des salariés. Alors, si on sort du cadre strict que vous évoquiez de certains métiers type hôtellerie, restauration, le rapport des salariés au travail est en train de changer. Le Covid a fait que, aussi, vous aviez moins de présence avec le télétravail sur le lieu de travail et moins de capacité à porter le t-shirt de l'entreprise. Et donc, vous avez une accélération dans les enquêtes, encore une fois, de climat social et d'attachement à l'entreprise. Vous avez une accélération du hiatus ou du clivage. Les boîtes dans lesquelles il fait bon vivre, où vous avez encore moins, que vous avez encore moins envie de quitter. Et puis, les entreprises qui n'ont pas réussi à créer de lien parce qu'il y avait beaucoup de télétravail, parce que parfois, la boîte y trouvait son intérêt en faisant du flex-office et donc en se débrouillant pour mettre dans moins de mètres carrés davantage de salariés. Et ces entreprises-là, notamment auprès de leurs jeunes collaborateurs, n'ont pas su créer le lien qui fait que quand on rentre dans une entreprise, on a envie d'y rester. Et ça, c'est peut-être plus durable que ce phénomène de couvercle. Et ça va accentuer encore les différences entre les entreprises qui sauront... Alors on revient à un sujet que vous évoquiez tout à l'heure, le sujet RSE notamment, qui sauront donner du lien, donner du sens au job qu'elles proposent et faire en sorte qu'on reste dans la boîte, pas uniquement parce qu'on est un mercenaire et parce qu'on a le meilleur salaire par rapport au temps passé.
C'est un phénomène d'ailleurs qui m'a beaucoup frappé dans le baromètre dont je parle souvent, qui a été réalisé, il a dû y avoir une pause j'imagine en 2020, c'est Randstad qui fait, vous savez, les caractéristiques de la bonne marque employeur. En numéro un, c'est la rémunération. Mais on a vu apparaître dans le top 3 l'équilibre vie professionnelle, vie personnelle. Et ça ne fait que monter, donter du sens à mon job, ça ne fait que monter également.
Il y a un paramètre clé, parce qu'on en fait pas mal, il y a un paramètre clé qui est le rapport au management.
Ouais. C'est quoi le rapport au management?
Comment se comporte mon chef avec moi, mon encadrement? Est-ce que j'ai un vrai manager qui me donne des orientations? Et c'est pas forcément être gentil, c'est être capable de donner des bonnes orientations et un feedback. À la personne.
On retombe sur les conclusions du rapport du Conseil national de la productivité, où c'est ça qu'on capte en réalité. Quand on dit il y a la quantité de managers, mais il y a aussi la capacité des managers à bien manager et à être en adéquation avec le staff dans son ensemble.
Et c'est un aux États-Unis. Quand on regarde les enquêtes, ceux qui veulent partir en priorité sont ceux qui se plaignent de la qualité du management et du management un peu toxique qu'il y a dans certaines entreprises. C'est le facteur numéro un.
Marque une pause. Dans un instant, on va s'intéresser à la réforme des retraites qui est indispensable, nous dit Elisabeth Borne. Et puis le baromètre Doxa Abeille Assurance à l'occasion du numéro d'été de Challenge sur les grandes fortunes de France. Voilà, à partir de quel revenu net est-on riche? À partir de quel patrimoine immobilier et financier est-on riche? Est-ce que je vis mieux que mes parents? Ah, c'est une sacrée question. Et puis est-ce que je me considère comme riche? Vous allez voir, c'est le désamour des Français avec cette question de la richesse ressort de manière assez criante de cette enquête mensuelle réalisée par Odoxa. À tout de suite.